Bien. Alors, donc, nous reprenons notre après-midi. Et donc, c'est là encore avec joie que je vous présente André, le père André Brouillette, qui est un jésuite originaire de Nouvelle-France, qui est professeur... Non, c'est pas tout ça.
Au Québec.
Au Québec, pardon, oui. Je vous demande pardon. Je pensais faire bien, mais je suis complètement à la masse. Excusez-moi. Au Québec, donc, originaire de Québec, et qui est professeur de théologie à Boston College, et qui est l'auteur donc d'une thèse qui étudie Thérèse du point de vue de la théologie en l'interrogeant sur la question du salut. Donc thèse dont nous avons déjà entendu parler plusieurs fois ce matin, c'est ce livre-là. Et donc le père André Brouillette va nous parler de qu'est-ce que Thérèse enseigne aux théologiens. Bon, merci beaucoup d'être venu de si loin. Nous vous écoutons.
Merci d'abord pour l'invitation qui m'a été faite de venir partager ici quelques résultats de recherche dont je viens d'un contexte nord-américain qui est un peu différent, qui probablement aussi oriente les questions qui sont les miennes. J'avouerai que je suis un peu intimidé de devoir parler après qu'on ait parlé déjà de ma thèse en termes très élogieux, puisque je ne parlerai pas de ma thèse. Donc, vous pouvez la lire, vous pouvez l'acheter, la commenter, je vous encourage. Je suis parti tout simplement d'une question, d'une interrogation très, très concrète que j'ai voulu, une question que j'ai voulu poser à Thérèse, à savoir bien qu'est-ce qu'elle a enseigné aux théologiens. Puis bien sûr, il y a quelques liens à faire avec ma thèse, mais ce ne sera pas moi qui vais le faire. D'ailleurs, il y a quelques années, lorsque, comme candidat au doctorat, j'ai présenté un projet de thèse à un comité facultaire, donc j'avais eu l'intuition, cette intuition d'emprunter un chemin original pour traiter de la question dogmatique du rôle de l'Esprit-Saint pour le salut, à savoir le passage par l'œuvre d'un auteur spirituel, saint et docteur de l'Église, à savoir Thérèse d'Avila. Le projet avait été loué, approuvé par ce comité, mais il a toutefois été noté dans les commentaires par les gens de la faculté française, et je cite de mémoire, alors je n'ai pas relu le document, mais on me disait « Quelle est la pertinence de ce projet pour la théologie dogmatique ?» Point d'interrogation. Donc, en somme, la question que soulevait cet examinateur était celle de savoir si un auteur spirituel pouvait contribuer en quelque manière que ce soit à la théologie sérieuse, à savoir dogmatique. Bon, on comprendra par le titre de la présente conférence et par le fait que j'enseigne à la fois la théologie systématique et spirituelle que je considère effectivement que Thérèse peut apporter une contribution originale au travail du théologien. L'orientation qui guidera mon propos aujourd'hui sera de sonner donc cette contribution théologique de Thérèse, en particulier en ce qui a trait à la méthode théologique. Ce sera l'objet en 5 points de ma troisième et dernière section. Précédemment, dans un deuxième temps, nous analyserons l'enseignement théologique de Thérèse à partir de 2 épisodes précis autour de l'usage de la sainte humanité du Christ pour l'avancement spirituel et de la dialectique entre savoir et expérience chez les confesseurs. Et dans un premier temps, 3 questions préliminaires seront abordées. Le divorce et la réconciliation, point d'interrogation, entre théologie et spiritualité, la nature de l'enseignement thérésien et la question du style. Donc, premier préliminaire. Donc, la question de l'expérience spirituelle ou la place de l'expérience spirituelle au sein de la théologie est l'objet de débats, et encore aujourd'hui. Peut-être pas dans un lieu comme ici, mais dans bien d'autres lieux. Donc, au XVIe siècle, le fameux théologien dominicain Melchior Cano n'a pas inclus la spiritualité parmi les loci theologiche, les lieux théologiques, officialisant une rupture qui se préparait depuis une certaine spécialisation de la théologie universitaire, s'éloignant progressivement de sa fonction de commentaire des Écritures pour développer un langage plus technique, en étroit dialogue avec la philosophie grecque. Au siècle de Thérèse, la distinction entre théologien et spirituel est assumée. Si certaines figures peuvent faire le pont entre ces 2 sphères, elles ont néanmoins leur orbite propre. Thérèse ou Jean de la Croix se retrouvent résolument du côté des spirituels. La théologie a poursuivi son développement en indépendance relative de la théologie. La spiritualité, dis-je, a poursuivi son développement en indépendance relative de la théologie d'école, étant perçue comme un sous-produit théologique ou caisse de résonance de l'éthos d'une époque. Que la spiritualité soit source théologique ne semblait plus opportun. La théologie du siècle dernier, donc le 20e siècle, que certains d'entre nous avons connu, fait, bon, la plupart d'entre nous quand même. Donc, la théologie du siècle dernier, dans la foulée du ressourcement patristique, a repensé cette séparation suite à l'essoufflement d'une certaine théologie académique d'inspiration néo-thomiste. Hans-Urs von Balthasar, parmi d'autres, est emblématique de cette reconfiguration du rapport entre théologie et spiritualité, entre autres par l'influence d'Adrienne von Speer sur sa théologie, mais aussi intrinsèquement par le lien tissé clairement entre les manifestations de Dieu dans l'histoire, par la littérature, les saints, etc., et le discours théologique. L'éruption des joies et des espoirs du peuple de Dieu à l'avant-scène ecclésiale a fait cheminer les considérations existentielles concrètes, au rang desquelles on peut inclure l'expérience spirituelle dans la théologie académique. On peut penser entre autres aux diverses théologies de la libération, dont le théologien péruvien Gustavo Gutiérrez est une figure centrale, lui qui est à la fois théologien, prêtre de paroisse et écrivain spirituel. Cueillant cette réévaluation de la relation entre spiritualité et théologie, le théologien américain Roger Haight, H-A-I-G-H-T, un systématicien de la Compagnie de Jésus, la pose dans des termes neufs à la lumière du témoignage de l'Évangile. Donc, dans un livre récent publié l'année dernière, Spirituality Seeking Theology, donc spiritualité cherchant la théologie, cherchant une théologie, il assigne 6 caractéristiques à la spiritualité. Les 3 premières ne surprendront personne. La spiritualité est une manière d'agir. Deuxièmement, elle doit être comprise comme un narratif. Troisièmement, elle est intrinsèquement dynamique, developmental. Haight ajoute en quatrième lieu que la spiritualité précède l'Église, puisqu'elle précède et constitue le fondement de la théologie et des doctrines de l'Église. Fin de la citation. Il aborde cette cinquième caractéristique. Il apporte une cinquième cette caractéristique en définissant que la source essentielle de laquelle les doctrines se sont développées était la tradition vivante de la vie existentielle de l'Église, à savoir sa spiritualité collective. La théologie et ce qui émerge de cette réflexion, les doctrines, trouvent leur source dans la spiritualité et reflètent la spiritualité à laquelle elles donnent voix. De ce fait, sixième caractéristique, la spiritualité peut servir de pont pour un dialogue écuménique et la compréhension mutuelle. Haight tisse ici un rapport bien particulier entre spiritualité et théologie. La spiritualité n'est pas reléguée au statut de sous-produit théologique, ni même ignorée en tant que discours parallèle inconséquent pour la chose théologique. Elle est positionnée historiquement, au fondement même d'un acte théologique qui est, lui, second. Le projet théologique de Haight dans ce livre se déploie ensuite par une lecture de la spiritualité à l'œuvre dans l'agir du Jésus des Évangiles. Donc, cet ouvrage témoigne simplement du fait que les rapports entre théologie et spiritualité se reconfigurent. Donc, nous sommes dans cette époque. Bien que théologie et spiritualité déploient des discours distincts, une invitation au dialogue se profile, qui puisse être profitable à chacune, d'autant plus qu'elle se réclame d'une même source, Dieu et sa révélation. Thérèse d'Avila, historiquement située à cette époque charnière de la distinction entre ces disciplines, nous étant donné comme docteur de l'Église, a quelque chose à nous enseigner à ce propos. Si vous voulez poursuivre dans un espace plus francophone cette réflexion de reconfiguration entre spiritualité et théologie, il y a un très bon article de Christophe Théobald il y a quelques années, donc dans les recherches de sciences religieuses, et puis un article similaire, presque en réponse, par Sylvie Robert, les deux enseignants au Centre Sèvres à Paris. Alors, deuxième préliminaire sur la nature de l'enseignement thérésien. Donc, au seuil d'un ouvrage sur Ignace de Loyola, Oui, donc on ne peut pas demander à un jésuite de parler de spiritualité sans citer au moins Ignace. Donc, au seuil de cet ouvrage sur Ignace de Loyola, le père Hugo Raner, donc qui n'est pas à confondre avec son frère encore plus fameux, rapporte les mots d'un jésuite de la première génération, le père Jérôme Nadal, qui disait « Et aquí a nuestro padre teologo ». Donc, voici, en désignant par cette expression de théologien, le saint fondateur de la Compagnie de Jésus. Ignace, bien qu'il ait reçu une solide formation académique à Alcalá, à Salamanque, puis à Paris, nous est pourtant connu d'abord et avec raison comme un maître spirituel, du fait des exercices spirituels. Mais par-delà la valeur formative des écrits spirituels d'Ignace, Raner parvient à dégager une réelle théologie, bien que cette dernière ne s'inscrive pas dans la forme académique prisée du XVIe siècle. Donc ce travail de Raner a été publié en allemand, traduit en partie en anglais, mais malheureusement est toujours inédit 50 ans après sa publication en français. Donc, comme Ignace, Thérèse d'Avila n'a pas écrit de traité théologique. Par ailleurs, contrairement à Ignace, elle ne peut se prévaloir de diplôme universitaire ou d'un statut de clerc. Mais il serait trop aisé de la disqualifier pour autant. Après tout, Thérèse, elle, fut élevée au rang de docteur de l'Église par Paul VI. Ce qui appelle donc l'Église à l'écouter enseigner. Le fait même que Thérèse soit considérée comme docteur de l'Église, à l'instar d'un saint Thomas d'Aquin ou saint Robert Bellarmin, professeur et auteur de traités théologiques, nous force à définir la nature de cet enseignement thérésien. Et ce, à partir du corpus thérésien lui-même, plutôt qu'à partir d'une définition préétablie de ce que devrait être un enseignement théologique. Certains écrits thérésiens contiennent des sections proprement didactiques, par exemple les chapitres 11 à 21 de la vie portant sur la prière. Mais pour saisir la nature de l'enseignement thérésien, il faut en questionner d'abord les conditions d'émergence. Les écrits thérésiens sont généralement des documents destinés à une diffusion intime, lettres personnelles, notes spirituelles, poésie. Même la vie ou le chemin de perfection était destiné à un public choisi et restreint. Au regard à la fois informé et bienveillant, au premier chef ses propres sœurs en religion, d'où leur caractère plus conversationnel que magistral. Thérèse assigne l'impulsion pour la réalisation de ses écrits aux demandes qui lui étaient adressées par des personnes qui avaient une certaine autorité pour ce faire, les confesseurs, mais aussi ses sœurs. Ces personnes qui faisaient partie du cercle intime thérésien la connaissaient de l'intérieur. Elle désirait un exposé plus ample de l'expérience thérésienne de Dieu pour leur propre bénéfice. La rhétorique de simple obéissance à la volonté d'autrui que déploie Thérèse ne doit pas faire oublier qu'elle avait ce désir de parler des choses de Dieu, et puis nous l'avons entendu il y a quelques minutes. En somme, si d'une part Thérèse se présente dans une posture de réponse à des demandes légitimes, il ne faut pas sous-estimer le choix conscient qu'elle fait d'embrasser cette carrière qui poursuit son ministère conversationnel. On pourrait dire de Thérèse qu'elle est authentiquement auteur. Les sources de la théologie thérésienne ne se limitent pas à son expérience personnelle. Par la prédication, l'accompagnement spirituel, mais aussi par les conversations spirituelles avec des religieuses ou laïques, dont son propre oncle, Thérèse développe une sensibilité théologique qui passe par le filtre de la parole d'autrui. Diverses lectures spirituelles en castillan, en espagnol, spécialement avant la publication de l'index des livres prohibés, lui fournirent à la fois une méditation du texte biblique, de même que des notions théologiques plus systématiques. Un exemple emblématique de cet usage se retrouve dans la vie à la veille de la fête de la Pentecôte, alors que Thérèse lit la Vita Christi. Elle y trouve non seulement un florilège de passages bibliques sur l'Esprit-Saint, mais aussi un exposé plus systématique du progrès dans la vie spirituelle et se trouve à ce moment favorisée d'une vision, entre guillemets, de l'Esprit-Saint. Donc la manière dont Thérèse est formée théologiquement par une médiation conversationnelle et par le crible de l'expérience priante, marque le produit théologique thérésien lui-même. L'enseignement thérésien se situe à la confluence de la doctrine et de la vie. Sa cohérence est assurée non par un choix rationnel ou l'appartenance à une école, mais par le passage, réception ou émergence de toute notion dans le creuset d'une expérience personnelle et partagée du divin. Du fait de cette articulation entre le registre doctrinal et le registre existentiel, l'enseignement thérésien n'est pas à rechercher uniquement du côté notionnel, mais doit se chercher aussi dans la vie telle que relatée par les divers écrits de Thérèse. Le résultat est donc une théologie à glaner dans les interstices de la vie et non seulement dans les passages didactiques. Troisième préambule, une question de style. Alors, l'adage fameux du théoricien canadien Marshall McLuhan, « Le médium est le message », nous alerte sur l'importance du médium de communication et du style. Le style n'est pas que l'habillage ou le véhicule d'idées, mais est en soi porteur de signification. L'historien américain John O'Malley, dans la foulée de ses recherches comparatives sur le Concile de Trente, ça c'est l'enseignant anglophone qui parle, de Trente et de Vatican II, a mis en exergue l'importance extrême à accorder au style des documents du Concile Vatican II pour en évaluer de manière juste la nouveauté et la portée au cœur des débats entre herméneutique de continuité et de rupture. L'analyse ne doit pas se limiter à une lecture purement notionnelle, mais doit prendre en considération le style dans lequel ces notions s'expriment. De l'autre côté de l'Atlantique, celui qui est le vôtre, le théologien Christophe Théobald a longuement développé de son côté la notion de christianisme comme style, en particulier dans la première section de l'ouvrage éponyme. Donc, avant d'aborder le style thérésien dans son acception plus large, que peut-on dire du style thérésien dans son sens littéraire? Donc, les écrits thérésiens ne se conforment pas au style attendu de traités théologiques. En soi, le style littéraire thérésien a longtemps disqualifié théologiquement son enseignement. Le style thérésien est caractérisé par sa rusticité, dimension conversationnelle ou orale, par des détours, des irruptions orantes spontanées, des protestations de non-savoir. Mais dans les dernières décennies, plusieurs auteurs, spécialement nord-américains et spécialement de sexe féminin, et je pense que ce n'est pas simplement une coïncidence, ont questionné la caractérisation trop naïve de la rhétorique thérésienne comme spontanée, c'est-à-dire comme non cultivée, et marquée par l'humilité et l'obéissance. Donc, on a déjà mentionné Alison Weber, on pourrait ajouter Carol Slade, Julian Al Green et certaines autres, donc qui ont réfléchi sur la rhétorique d'humilité ou la politique de la sainteté, etc. Donc, questionner le style thérésien et puis inviter les chercheurs à avoir une lecture moins naïve que celle qui avait cours, je dirais, il y a 30 ou 40 ans. Donc, Thérèse n'est plus perçue alors comme une victime obéissante d'un système lui demandant d'écrire, mais comme un auteur qui fait choix d'un style en accord avec ses convictions profondes. Plutôt que de définir dès maintenant le style théologique thérésien, nous le verrons en action, à travers deux discussions de thèmes théologiques importants, à savoir l'épisode phare autour de la question de l'humanité du Christ, et d'autre part, la dialectique entre savoir et expérience chez les confesseurs. Donc, sur cet épisode phare de l'humanité du Christ, qui est en quelque sorte révélateur de la vocation théologique thérésienne. Donc, un moment charnière pour comprendre cette vocation théologique de Thérèse, un moment charnière mérite d'être exploré autour de l'affirmation, donc, de l'importance de la humanidad sacratissima, la très sainte humanité de Jésus-Christ, en particulier au chapitre 22 de la vie. Dans la trame de la vie, ce chapitre intervient au pivot de la section de didactique sur la prière et la reprise du fil narratif avec le récit de la vie nouvelle au chapitre 23. Thérèse, dans son style direct, alerte d'emblée le lecteur dans le titre que ce chapitre est d'une grande utilité. Es muy provechoso. Donc, la question disputée est celle de la nécessité de dépasser la dimension corporelle de Dieu pour atteindre une prière qui soit plus élevée. Mais ce qui est en jeu ici, plus profondément, est la constitution d'une voie, V-O-I-X, théologique, pour Thérèse, voie qui lui soit propre. Thérèse donc relate que certains livres portant sur l'oraison considèrent que la dimension corporelle, même celle du Christ, limite, voire empêche une contemplation plus parfaite. Peu importe ici que Thérèse ait mal compris ou non les livres dont elle parle, elle reçoit cet enseignement livresque comme une parole qui a autorité, puisque ses auteurs ont fait des études, connaissent la tradition de l'Église et l'Écriture et sont clairs pour la plupart. Elle a pour ses letrados y espirituales un grand respect dû à la connaissance qui est la leur et à leur rang dans l'Église. Pourtant, ce conseil, une fois suivi dans sa vie de prière, l'a mis en danger, peligro. Face à cette parole doc, Thérèse fait valoir son expérience, redoublant d'emblée la première personne du singulier. « Paresse mes amis, il me semblait à moi. » Cependant, pour étayer l'autorité de son expérience, Thérèse en attribue la paternité à Dieu même, qui prend l'initiative de tout progrès et qui permet qu'une lecture porte du fruit. Au seuil de son enseignement sur l'importance de l'humanité du Christ, alors même qu'elle adopte cette posture de maître-enseignant, elle inscrit cette posture dans le cadre d'une prière, qu'il plaise à Sa Majesté, qu'il me donne de faire comprendre. Sa parole est ainsi hantée non dans une expérience humaine, mais dans une expérience reçue de Dieu. Peut-être dira-t-elle peu, c'est Thérèse qui le dit, mais ce qu'elle dit proviendra de l'expérience. Thérèse monte cependant son argumentaire sur une base plus large que sa seule personne. D'abord, elle en appelle aux saints, mettant de l'avant des témoins reçus, reconnus par l'Église pour l'exemplarité de leur vie, et pas forcément tous des lettrés, et l'importance donc qu'ils accordent au Christ incarné. Deuxièmement, elle invoque une réalité anthropologique primordiale. Nous avons un corps. Suggérant par là une considération du donné divin de l'expérience de l'existence humaine. Au niveau de la christologie, troisième point, Thérèse en appelle à l'importance de la dimension incarnée de la vie de Jésus lui-même, son image ou portrait, ses souffrances, sa crucifixion. Elle évoque ensuite un fondement de la théologie sacramentelle en rappelant la présence continuelle du Christ en son corps par le biais de l'Eucharistie. Enfin, en ayant peut-être un œil sur la réalité ecclésiale contemporaine, elle questionne une opinion théologique qui aurait pour conséquence de prendre distance du Christ, alors qu'il est, lui, un ami fidèle qui ne nous abandonne pas. Cet argumentaire théologique thérésien en rafale s'inscrit toutefois en appui d'une conviction existentielle antérieure, conviction qu'elle affiche telle et se veut reçue de l'expérience priante. La critique thérésienne laisse par ailleurs poindre un sens de l'Église qui est respectueux sans être obséquieux. S'inscrivant en faux de l'enseignement d'hommes d'Église, elle professe que si des spirituels l'ont dit, ce doit être vrai pour certaines personnes, ce qui permet de lire en contre-jour que ce n'est pas la voie la plus universelle. Thérèse concède qu'à l'initiative de Dieu, les facultés peuvent être suspendues et qu'il y ait retrait même de la présence de Dieu, de telle sorte qu'une jouissance dans l'absence prend place momentanément, mais une telle ascension ne se réalise pas par nos propres forces. Ce cas de figure explicité, Thérèse ne cède cependant en rien quant à la vigueur de sa conviction du caractère essentiel de l'humanité du Christ pour le progrès spirituel, face aux dangers constatés dans son existence de la mise en application de ce conseil spirituel, Thérèse arrive à mettre en question une opinion théologique qui lui semble pourtant sanctionnée par un discours ecclésial officiel. Forte d'une conviction théologique en faveur de l'importance de l'humanité du Christ, conviction hantée dans la prière, Thérèse déploie avec assurance et pugnacité et son agir et la théologie qui en découle. Pour reprendre un mot fameux de saint Ignace de Loyola, « Ce n'est pas l'abondance de matière qui compte, mais de goûter les choses intérieurement. » Thérèse a goûté intérieurement l'humanité du Christ. Convaincue de son importance, elle ne craint pas d'édifier son enseignement sur cette dernière et de ferrailler avec les théologiens qui en jugeraient autrement. Deuxième lieu d'investigation sur la dialectique entre savoir et expérience, entre confesseur et lettré. Thérèse aborde la question de la dialectique entre savoir et expérience à plusieurs reprises en discutant du choix de confesseur. En explorant l'une des occurrences les plus importantes au chapitre 13 de la vie, on peut parvenir à dégager les linéaments de cette relation telle qu'entrevue par Thérèse. En creux, la question qui se pose est celle de la valeur et de la nature du discours théologique, puisque le confesseur incarne cette figure du détenteur d'un savoir sur Dieu qu'il est appelé à communiquer. Et n'est-ce pas là ce qui définit le théologien? Dans ce passage, donc, de chapitre 13 de la vie, dans ce passage, Thérèse se questionne quant à ce qu'il faut privilégier chez un confesseur, le savoir ou l'expérience. Ces deux termes méritent d'être définis. L'expérience à laquelle Thérèse fait référence ne se mesure pas au passage des années. Le père Diego de Cetina, qui avait tant aidé Thérèse, avait dans la jeune vingtaine. Mais à la pratique, donc l'expérience fait référence à la pratique de l'oraison. Il ne s'agit pas simplement de l'expérience générique de la prière, puisqu'on peut la présupposer de clercs qui célèbrent la liturgie des heures, l'Eucharistie et lisent la Bible. L'oraison ouvre un espace d'échange entre Dieu et l'être humain au cœur duquel l'Esprit s'insère. D'où le nom de spirituel, spirituales, attribué à ceux qui pratiquent ce type de prière et en sont transformés, donc qui ont cette expérience. Thérèse met de l'avant cette expérience de l'esprit dans l'oraison en soulignant que les théologiens sin oration ne haïssent ni n'ignorent l'esprit. Ce qui sous-entend tout de même que ceux qui pratiquent l'oraison le connaissent positivement. Pour sa part, le savoir des lettrados, de ceux qui ont fait des études, consiste en une doctrine, lettras, qui éclaire, constituée de vérités tirées des saintes écritures. La source de ce savoir est clairement localisée en la parole de Dieu. Les vérités de cette doctrine servent de balises et d'étalons de l'expérience de Dieu faite par la prière. L'idéal thérésien se situerait sans surprise dans une alliance du savoir et de l'expérience, un lettrado spirituel. Mais à choisir entre ces deux qualités, que faut-il privilégier? L'expérience sans savoir est problématique, puisqu'aucune balise n'est alors offerte pour guider l'expérience. Plutôt qu'un confesseur sans vérité, objet du savoir, il vaudrait mieux pour l'âme spirituelle n'avoir pas d'oraison. Thérèse s'insurge même contre les dévotions niaises, devociones a bobas. À la femme du monde, libre d'avoir ou non un confesseur, Thérèse suggère même de n'avoir pas de directeur, plutôt qu'un directeur qui ne convienne pas. Quant à la religieuse, Thérèse craint qu'un directeur qui manque de savoir et dont elle ne dit pas qu'il serait spirituel, mène cette religieuse à l'erreur. Dans le cadre de cette discussion, Thérèse introduit une distinction entre le lettrado proprement dit, nous pourrions parler d'un universitaire, et le directeur qui est éclairé, avisado, et dispose d'un bon jugement. Ce dernier n'est pas un théologien professionnel, mais il s'inscrit dans la ligne du savoir théologique, fût-ce de manière minimale, voire implicite, puisque ce savoir est nécessaire pour être éclairé ou doté d'un bon jugement. Sans savoir aucun, le directeur est inutile ou dangereux. Qu'en est-il du savoir sans expérience? Un savant sans expérience de l'oraison n'est pas utile comme guide. L'expérience est absolument nécessaire chez le directeur, sous peine de fatiguer et l'âme et le corps, dit Thérèse. Thérèse ne déprécie cependant pas le savoir en lui-même. Elle clame qu'il faut respecter les lettrados, même dans le cas où on fasse oraison davantage qu'eux. Par ailleurs, elle recommande leur consultation ponctuelle comme étant salutaire en soi. La consultation ici évoquée présente une idée fragmentaire de ce que constituerait en propre l'enseignement théologique. Le savoir seul, bien qu'il participe à la définition du théologien, en constitue une figure incomplète, que Thérèse n'aura de cesse de compléter. Dans sa proposition de consulter le théologien qui n'a pas l'expérience de l'oraison, Thérèse introduit par exemple la condition suivante. « Sean virtuosos, s'ils sont vertueux, puisque certains peuvent être indignes. Le savoir que craint le démon est celui qui est vertueux et humble. » Donc le savoir en lui-même n'est pas le seul gage de vérité. La vérité s'enracine dans une manière d'être exprimée ici par Thérèse, par la vertu. Thérèse ne se résout pas à une alternative entre expérience et savoir, ni ne s'agenouille devant le savoir seul. Elle dresse le portrait d'une lettre vivifiée par l'Esprit et incarnée dans une vie tournée vers Dieu. Puisque la source de l'expérience d'oraison et du savoir théologique est la même, à savoir Dieu, Thérèse croit fermement que la figure du lettrado ne sera complète que par l'expérience de l'Esprit. Cette espérance la portera à croire que Dieu rendra spirituel les hara spirituals, les lettrados qui ne le sont pas, pour qu'ils puissent aider davantage. Ajoutant à cette espérance le témoignage qu'elle vit elle-même, cette évolution à deux reprises. Avant de sceller ce plaidoyer de l'alliance du savoir et de l'oraison par une prière, Thérèse souligne avec force son admiration pour les lettrados et tout spécialement ceux qui sont religieux. Elle porte au pinacle cette figure du savant religieux qui allie la connaissance de Dieu à travers les Écritures à une discipline de vie exemplaire. En cela, Thérèse met de l'avant encore une fois l'importance de la vie de foi personnelle de celui qui est dépositaire du savoir théologique. C'est au cœur de l'alliance entre vertu et savoir, oraison inspirée et connaissance de la parole de Dieu, que s'esquisse le chemin parfait vers Dieu, chemin incarné à l'écoute et imitation du Verbe fait chair sous la mouvance de l'Esprit. Donc, comme troisième partie, quelle est la contribution thérésienne à la théologie? Donc, dans les dernières décennies, on l'a vu avec la présentation en particulier de Mme Casalonga, la contribution théologique thérésienne a été explorée avec sagacité et tout spécialement dans le monde académique hispanophone et francophone pour sa dimension théologique. Donc, Thomas Alvarez, Michel de Goethe, en christologie, Romulo Cuartas Londoño, en théologie trinitaire et bien d'autres, ont su dégager chez Thérèse une théologie originale et qui méritait d'être entendue. Dans sa présentation de l'ouvrage « Le Christ » de Thérèse de Jésus, Mgr Doré se sentit tout de même l'obligation de justifier le choix de présenter un tel ouvrage sur Thérèse dans une collection théologique. La question à poser n'est pas tant de savoir si Thérèse est théologienne, à mon avis, mais en quoi elle l'est. Et ce, sans utiliser comme étalon une forme théologique préconçue. Donc, c'est au cœur même, comme je disais, du discours thérésien, de son style et de ses implications, qu'il convient de définir les contours de la contribution thérésienne à la théologie. Et donc, dans la foulée des considérations préliminaires et de notre petite étude de texte, je soulignerai cinq éléments constitutifs de cette contribution théologienne, de cette contribution donc thérésienne qui seront mis en exergue. Donc, en premier lieu, une théologie à glaner dans la narrativité. C'est-à-dire que l'enseignement thérésien explicite se concentre surtout autour de la question de la prière et de la vie religieuse en général. Mais la recherche théologique des dernières décennies a montré comment même les textes narratifs thérésiens pouvaient être des sources théologiques. L'enjeu ici est celui de l'expansion de l'imagination théologique. Une deuxième contribution est celle d'une écoute de l'expérience priante comme écoute de l'autre. Le style conversant ou conversationnel de Thérèse invite à une écoute de l'expérience priante, de l'expérience d'oraison qui écoute de l'autre. Thomas Alvarez, dans la perspective théologique typique de Thérèse, en fait décrit donc cette perspective théologique typique de Thérèse comme étant enracinée invariablement dans le donné empirique pour en arriver à des conclusions doctrinales. L'expérience première que Thérèse écoute est la sienne propre, et cette expérience sert de lieu d'émergence et d'authentification de tout enseignement théologique. L'injonction thérésienne de l'écoute de l'expérience ne se limite pas à son expérience personnelle, mais s'étend en celle d'autrui, à celle d'autrui et en particulier à des voix inaudibles. Thérèse fait parfois usage de la troisième personne du singulier pour parler de sa propre expérience, mais dans un registre qui se veuille universalisable. Elle est attentive à l'expérience de ses sœurs dans les demandes qu'elles adressent, mais aussi dans leur propre expérience priante, partagée en des cercles restreints. L'expérience de Doña Guillomar pour San José, de Maria de Jesús et de bien des religieuses dont on parle dans les fondations sont l'occasion pour Thérèse de découvrir, d'affiner et de confirmer sa doctrine de Dieu. Un réel sensus fidelium se déploie chez elle. Mais Thérèse ne se limite pas qu'à mettre en œuvre cette manière incarnée de faire théologie. Elle revendique l'importance d'une expérience féminine de Dieu, trop souvent écartée d'emblée par les théologiens de l'époque. Elle a d'ailleurs écrit un magnifique plaidoyer, biffé par les censeurs de la version finale, en faveur des femmes et contre les juges misogynes qui suspectent toujours leur vertu. Malheureusement, dans l'édition du Cerf, je ne sais pas où ça s'est retrouvé, mais je n'ai pas... Voilà. Oui, c'est ça. Donc, ça se retrouve un peu caché. Dans l'édition anglaise, on met ça quand même bien en évidence, mais bon, peut-être des différences voilà, culturelles. Qu'importe. Mais donc, Thérèse l'a bien écrit, effectivement, ça a été retiré. C'est un langage assez vigoureux. Donc, la revendication féministe de Thérèse constitue une invitation à l'écoute d'un langage autre, d'une expérience autre. Plus encore, Thérèse invite à l'écoute de l'autre, avec un A majuscule, à l'écoute d'un Dieu qui peut nous surprendre, nous interpeller et qui se révèle mystère. L'écoute de l'autre est écoute de l'Esprit, du Dieu qui donne vie et pousse à la vie. Thérèse émaille ses écrits d'interjections priantes, s'adressant à Dieu, demandant qu'il l'éclaire ou qu'il l'exauce, ou tout simplement pour lui rendre grâce. Le partenaire de conversation de l'écrit thérésien n'est pas uniquement le lecteur anonyme ou le lecteur censeur, c'est aussi Dieu qui est revendiqué comme source de l'expérience priante, mais aussi de tout enseignement théologique. Une question pour le théologien actuel serait de s'interroger sur les voix aujourd'hui inaudibles, celles de nouvelles expériences de Dieu, de secteurs négligés, ou pour reprendre une expression chère au pape François, de périphéries existentielles. Une troisième invitation thérésienne, un langage qui invite à la recherche humble. Les écrits thérésiens fourmillent d'expressions d'approximation. Il me semble, il me paraît, parfois redoublé, comme je le disais, il me semble à moi. Le style thérésien castillan, conversant, spirituel, se distingue clairement d'un latin théologique, analytique et précis. Même les définitions de concepts spirituels centraux évolueront au fil des écrits. La qualité exploratoire du langage thérésien s'affiche en particulier dans ses descriptions d'expériences de Dieu, expériences de prière. Plutôt qu'un manque de raffinement, une adéquation entre le langage, la méthode et l'objet se fait jour. Le langage vacillant de Thérèse exprime une recherche, une quête qui est ancrée existentiellement et dont l'objet, Dieu, n'est pas facilement objet de définition et de certitude. À l'image du langage d'une absence dont parle Michel de Certeau au commencement de sa fable mystique. L'autre divin et personnel qui est source et objet de la recherche, s'exprimant dans le langage, ne s'accommode pas de la saisie. Un langage qui ne craint pas de rechercher et de chercher marque ainsi sa congruence avec son objet insaisissable. Le langage mystique approximatif témoigne de l'authenticité de la quête thérésienne et de son expression. L'authenticité du langage thérésien explique probablement en bonne partie son succès pérenne. Et l'approximation donc du langage thérésien situe l'auteur dans une posture d'humilité face à son objet et invite le lecteur à sa suite. Cette humilité face au mystère transforme un langage approximatif en langage de vérité. L'invitation thérésienne aux théologiens serait peut-être de n'avoir pas peur de chercher, d'innover, de trouver des langages nouveaux, même dans leur balbutiement. Comme quatrième invitation, un sens de l'Église véritable, mais qui n'est pas obséquieux. Donc, Thérèse vécut et mourut hija de la Ecclesia, fille de l'Église. Pour elle, l'Église est corps du Christ et lieu de vérité. Elle ne cesse de marquer sa déférence envers les autorités ecclésiastiques dans une obéissance intérieure qui lui ferait préférer mourir 1000 morts plutôt que de désobéir à une seule cérémonie de l'Église. Fin de la citation. Mais comme le montre l'épisode de l'humanité du Christ dans la vie, au chapitre 22, ce sens de l'Église ne saurait en vérité entrer en conflit avec une expérience authentique de Dieu. Et s'il l'était, on ne saurait résoudre cette inadéquation par une parole d'autorité. La fidélité ecclésiale thérésienne est une fidélité créative, pour reprendre une expression chère au père Kolvenbach, une fidélité qui enracine sans emprisonner, qui accepte qu'un espace puisse être dégagé où l'esprit nous appelle à des déplacements. Comme cinquième point, donc la centralité du témoignage pour une théologie existentielle. Donc la théologie est une discipline académique, elle était déjà à l'époque de Thérèse, mais elle est encore plus de nos jours. La théologie pourrait se confiner à un savoir qui soit à distance de son objet. Les sciences religieuses contemporaines le montrent bien. Dans un contexte français, les choses sont un peu différentes, mais dans un contexte nord-américain où les études religieuses, la théologie et la théologie doivent faire bon ménage. Donc, dans les sciences religieuses, on se situe à distance, en quelque sorte, de l'objet. Et c'est le discours dominant qui a même tendance à, déborder dans la sphère théologique. Mais Thérèse avait déjà repéré cette possible dichotomie dans le cas de figure du lettré dont la connaissance de Dieu serait purement livresque, sans un enracinement existentiel dans l'expérience personnelle d'ouverture à Dieu dans la prière d'oraison, le théologien serait porteur d'un verbe qui ne soit pas fait chair. Le témoignage existentiel du théologien est le corrélatif espéré de la forme la plus haute de la théologie. Karl Rahner, Balthasar, par exemple, ont conjugué écrit savant et vie dévote. Teilhard de Chardin, Yves Congar, Jean Danielou, Henri de Lubac ont été un temps mis à l'écart et soupçonnés, tout en restant fidèles. La figure du martyr affleure chez Thérèse, sous la forme rhétorique hyperbolique du désir de souffrir 1000 morts plutôt que d'aller à l'encontre de Dieu. Mais la force de conviction existentielle si ancrée que la mort soit préférable à leur abandon se déploie aussi du côté de convictions théologiques. La connaissance théologique engage donc la vie même du théologien. De manière ultime, le témoignage plaignier que pourrait offrir le théologien est celui de la sainteté. Le théologien fait nombre, on peut compter ses écrits, ses livres, ses conférences, ses cours, le nombre de mots qu'il a écrits, prononcés. Voilà. Le saint, lui, ne fait pas nombre. Le père Pedro Arrupé, donc, qui a été supérieur de la compagnie de Jésus, avait un jour répondu à un journaliste qui lui parlait donc du nombre qui diminuait de jésuites. Il avait répondu: « Un saint vaut mieux qu'une armée de jésuites. » Fin de la citation. Donc, le saint ne fait pas nombre. Et c'est parce que Thérèse est sainte qu'elle est docteur de l'Église. C'est parce que Dieu resplendit en elle que son discours sur Dieu est digne d'écoute. Le théologien est invité par là à passer au creuset de l'incarnation son savoir et à témoigner par sa vie de l'authenticité de son discours sur Dieu. En conclusion de cette réflexion donc sur la contribution théologienne de Thérésienne au théologien, permettez-moi de lancer, alors assurez-vous de façon très pacifique, une bombe sous forme de question ou de thèse. La spiritualité ne serait-elle pas l'avenir de la théologie? Question. Pourquoi? Comme ouverture à l'Esprit Saint, ouverture qui s'inscrive dans la chair même de celui ou celle qui fasse œuvre de théologie. Comme témoignage existentiel qui ne se réfugie pas dans la pure objectivité d'un discours scientifique. Et comme intégration harmonieuse et conductrice du référent ecclésial par l'histoire, la tradition, le magistère. En détournant une locution célèbre du Christ à Thérèse, on pourrait dire que le théologien est appelé à devenir libro vivo, livre vivant, incarné, alliant savoir et esprit, doctrine et vie. Merci.
Merci beaucoup, Père, de cette si belle conférence qui nous invite à unifier notre vie et unifier, ressaisir tout notre travail de théologien par la spiritualité à l'école de Thérèse.